Papa, et non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère. C'est devenu ultra simple, notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme de site web tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canons dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos propres campagnes email. Vous pouvez même vendre vos propres formations en ligne. Donc si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. N'hésitez pas et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Agneau et je vous emmène aujourd'hui avec moi en leçon. Vous êtes prêts? Moi je suis assez prête parce que nous sommes mercredi et le mercredi c'est quand même le jour des leçons. Qu'est-ce que c'est donc ces fameuses leçons? Eh bien tout simplement ces moments qu'on passe vous et moi à discuter des sujets qui vous turlupinent, des sujets qui vous embêtent, qui peuvent être business, qui peuvent être perso. J'aime bien aussi les sujets perso d'ailleurs, n'hésitez pas à m'en envoyer de temps en temps. Alors ça n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui on est en plein business avec Éléonore. Éléonore qui est une jeune femme qui vient d'arriver, enfin il y a environ un an, dans une entreprise qui vise à mettre en valeur les produits de la ferme, et notamment les produits laitiers. Elle me pose une question qui me parle pas mal, puisqu'elle me demande, si je résume, comment réussir son rebranding. En effet, l'entreprise dans laquelle travaille Éléonore a dû changer complètement de positionnement, le nom suite à des retours clients ne paraissait pas clair, et donc Éléonore, le CEO et toute l'équipe ont décidé de se lancer dans le vaste, vaste chantier du rebranding, et je sais de quoi je parle, parce que les rebranding, j'en ai fait presque une spécialité, si je puis dire, puisque comme vous le savez, ça fait maintenant 3 fois quand même que le podcast change de nom. Tout ça pour dire que j'ai trouvé cette leçon très intéressante, que j'espère évidemment qu'elle vous sera utile, ainsi qu'à Éléonore, bien sûr, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Allô Éléonore ?
Bonjour Pauline.
Bienvenue sur cette leçon, chère Éléonore, et désolée pour mon petit retard. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, s'il te plaît, et puis ensuite me dire quelle est ta question ?
Avec plaisir. Je m'appelle Éléonore, j'ai 26 ans, j'ai un parcours école de commerce que j'ai terminé par un master entrepreneur. À la fin de mes études, j'ai rejoint Née d'une seule ferme, une jeune start-up créée par André Bonnard, un éleveur laitier, dont la mission est de permettre aux éleveurs d'accéder à une meilleure rémunération grâce à la transformation de yaourts sur leur ferme. Donc pour cela, on leur loue une micro-usine qu'ils peuvent installer en quelques heures sur leur ferme, et nous, on assure ensuite toutes les fonctions support, de l'achat des consommables, la logistique, les débouchés commerciaux et l'apport d'une marque.
Voilà, sacré boulot.
Sacré boulot, en effet.
Donc tu travailles toujours là-bas, et alors qu'est-ce qui t'amène chez moi?
Alors aujourd'hui, donc on est distribué dans plus de 500 intermarchés, et ce qui m'amène, c'est qu'après un an de commercialisation, on avait des ventes qui n'étaient pas à la hauteur de nos espérances, et on comprenait pas vraiment pourquoi, parce que on avait un peu l'impression de cocher toutes les cases. D'un côté, des produits locaux hyper sains, fabriqués à la ferme, et des produits hyper engagés, aux côtés des éleveurs laitiers. Et pour autant, on avait des ventes qui n'étaient pas à la hauteur, mais quand on se rendait en magasin à la rencontre de nos consommateurs, en 30 secondes, on leur expliquait notre démarche. Et là, ils achetaient direct et ils étaient convaincus. Mmh. Et donc, on a commencé à se poser des questions autour de notre mix marketing. On s'est dit, autour de notre nom de marque, notre logo, notre pack, on s'est dit, peut-être qu'il ne racontait pas notre histoire et qu'il, en fait, ne permettait pas de mettre en avant des éléments qui allaient déclencher l'achat chez nos consommateurs. Donc, fort de ce constat, on s'est réapproprié un peu les sujets en interne et on a décidé de tout changer. Jusqu'au nom. Donc, petit spoiler, on va s'appeler J'achète Fermier. Les produits seront en magasin dès octobre. Donc, on a fait le choix d'un nom très revendicateur. On a changé nos codes couleurs vers des couleurs craft vert. Et on a mis en avant nos éleveurs sur le pack, nos fermes, vraiment. Mais aujourd'hui, donc à quelques semaines de la bascule officielle, on a encore deux grandes questions. C'est à la fois comment on va être capable de garder nos consommateurs actuels, mais aussi de susciter justement l'adhésion des nouveaux consommateurs et aussi, mine de rien, l'adhésion de notre équipe et de tous nos agriculteurs qui travaillent avec nous.
Donc en gros, tu es en train de me dire comment bien réussir son rebranding.
Exactement.
Si je reformule. Parfait. Eh bien écoute, tu tombes très bien, Léonore, parce que des rebranding, j'en ai pas fait un. J'en ai pas fait deux, j'en ai déjà fait au moins trois. Donc au moins, je peux te donner mon petit retour d'expérience. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis quand même, avant qu'on parle tout de suite du sujet du rebranding, c'est que, d'après ce que je comprends, c'est en fait finalement, face à des clients et à des retours clients concrets, hein, dans la vraie vie, que vous avez décidé de faire ce choix. Parce que il y a quand même une question à laquelle il faut répondre, c'est que parfois certaines personnes se trompent un peu de combat et font des rebranding en se disant que leur branding n'est pas bon, mais parfois c'est pas le problème, parfois c'est que le produit a un problème. Enfin, tu vois, il faut vraiment rentrer dans le dur et se poser ces questions. Je te propose de ne pas ouvrir cette boîte de Pandore puisque j'ai l'impression que vous avez déjà répondu à cette question et que vous l'avez fait astucieusement en parlant à vos clients, mais peut-être le premier préambule que je peux dire pour les personnes qui nous écoutent, c'est avant de se lancer dans un rebranding, qui est quelque chose de très compliqué et de chronophage, eh bien, il faut s'assurer en fait qu'il est vraiment nécessaire et parfois en fait le problème ça n'est pas le nom de la marque ou ça n'est pas la couleur de la charte graphique, le problème c'est tout simplement le produit, c'est le ciblage marketing, c'est beaucoup d'autres choses. Donc moi je pars du postulat que ça vous le faites bien et donc effectivement il y a un souci au niveau du discours, du storytelling de la marque et que c'est pour ça que vous avez besoin de faire un rebranding. Mais c'était important je crois de le rappeler. Du coup, comment faire un rebranding? Je pourrais te passer par là beaucoup. Je pense que ce qui est déjà indispensable, et c'est peut-être mon premier conseil, et je serais ravie d'avoir ton retour là-dessus, c'est tout simplement en fait de l'expliquer. C'est d'être hyper transparent, d'expliquer à votre audience, justement parce que tu me disais que tu avais la crainte, tu vois, que certaines personnes qui peut-être aimaient votre marque avant ne comprennent pas le rebranding et se disent mais en fait pourquoi est-ce qu'ils font ça et du coup ne se reconnaissent plus et bref vous quittent, ce qui serait quand même fort dommage parce que j'imagine que ces clients-là vous les avez pas volés. Eh bien, le mieux pour justement qu'ils s'approprient vraiment la nouvelle marque, c'est de leur expliquer pourquoi vous l'avez fait. Alors t'es pas obligé de dire que vous aviez pas assez de clients, ça c'est peut-être pas forcément très vendeur, mais trouver que vous étiez pas, que l'ancienne marque n'était pas, tu vois, en phase avec vos valeurs, qu'elle exprimait pas forcément votre storytelling. Enfin, à toi de réfléchir à quelque chose qui soit vrai, qui soit sincère, mais qui permette justement d'onboarder, si tu veux, les anciens qui se sentent pas lésés, un peu comme si, tu vois, on leur disait, ça peut être le défaut, on va dire, d'un rebranding, ah ben, l'ancien monde ne fonctionnait pas, allons sur un nouveau monde, et en fait, tout ce qui est nouveau est mieux, et les anciens, on s'en fout un peu. Il faut pas qu'ils aient le sentiment d'être abandonnés, au contraire, il faut qu'ils aient le sentiment d'être vraiment pris en compte, et d'ailleurs, très souvent, ce qu'on peut conseiller dans un rebranding, c'est aussi d'inclure, tu vois, la communauté, si elle existe, en demandant aux gens qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous avez apprécié, est-ce que vous êtes d'accord, parfois même les faire témoigner ou leur demander justement s'ils ont des suggestions au niveau du rebranding. Ça c'est vraiment je trouve un moyen très très simple qui parfois fait peur en tant que marque, mais qui en fait permet de fédérer autour du projet, d'onboarder en fait tout simplement les anciens clients. Donc je sais pas si c'est quelque chose que vous avez prévu de faire ou si vous avez déjà fait.
C'est assez marrant parce que on l'a un peu fait justement quand on est en magasin, quand on avait encore notre ancienne identité, on posait déjà des questions à nos clients en disant mais qu'est-ce que vous aimeriez en fait voir sur nos packs, qu'est-ce qui va pas, quelles sont les phrases clés que vous aimeriez. On leur avait même mis des phrases un peu choc et on leur disait mais voilà laquelle vous parle le plus, choisissez. Donc on a essayé en effet de faire un peu ça.
Ok, génial. Tu vois, c'est hyper bien que vous le fassiez en amont. Et du coup, d'ailleurs, vous allez pouvoir communiquer sur le fait que ce rebranding, en fait, il vient des clients. Et du coup, ça sera beaucoup plus facile, une fois de plus, de communiquer dessus et d'expliquer que c'est pas juste vous, dans votre tour d'ivoire, qui avez décidé de changer les choses, sur des personnes qui, parfois, vous ont fait confiance sur un ancien produit, un ancien nom, pour pouvoir, justement, leur faire mieux accepter ce changement. Parce qu'on le sait, tout changement, en fait, fait peur, à la fois à vous, j'imagine, parce que vous sautez quand même dans l'inconnu, mais en fait, il faut se mettre à la place de tes clients ou des personnes avec lesquelles vous travaillez. J'imagine qu'eux aussi ils ont peur. Et donc les rassurer, tu vois, d'une certaine manière, en leur expliquant que finalement ça vient des clients et que c'est une démarche sur laquelle vous avez beaucoup travaillé justement en collaboration avec eux, te permettra, j'en suis sûre, de beaucoup fédérer ces personnes autour de toi. Donc ça, j'ai pas tellement de doutes qu'il faut le faire. Mais après, tu vois, tu me disais, on en a un peu parlé à nos clients en boutique. Je sais pas si vous êtes présents sur les réseaux sociaux, si vous avez un site internet. En fait, utilise ce rebranding comme un moyen de communiquer. C'est une occasion de parler de votre histoire, de revenir au mythe fondateur, d'expliquer pourquoi est-ce que vous faites les choses et si tu veux, de reparler de manière concrète de votre mission de marque. Parce que c'est pas tous les jours facile, on va dire, d'en parler. Tu vois, tu vas pas tous les jours faire un post Instagram pour dire pourquoi est-ce que ton entreprise existe. Mais là, quand vous faites un rebranding, bah, au contraire, c'est un très bon moyen de l'expliquer et de rentrer beaucoup plus dans le détail en expliquant bah, ce qui était peut-être visible avant et ce que vous voulez plus mettre en avant. Donc, c'est vraiment en fait un rebranding aussi un moyen de communiquer et je t'invite à faire un petit plan tu vois, de communication à ce sujet. C'est-à-dire, une fois de plus, en fonction de vos différents supports, ça peut être même sur des PLV si tu veux, si jamais vous travaillez plutôt en physique. Ça peut être, une fois de plus, sur votre site internet, ça peut être sur les réseaux sociaux. Enfin, je ne sais pas quels sont les supports dont vous disposez, mais disons que pour moi, il est indispensable de ne pas le passer sous silence. Et ça, c'est vraiment une erreur que je vois souvent. C'est les gens, en fait, font un rebranding, tu vois, et essayent un petit peu de le passer en catimini, en mode personne ne va le voir. Mais en fait, le problème de ça, c'est que les anciens vont être frustrés. Les nouveaux, en fait, c'est juste une occasion perdue de communiquer sur pourquoi. Pourquoi est-ce que ben, maintenant, en fait, votre branding est meilleur et qu'est-ce que vous faites ?
Oui, tu as tout à fait raison. Et je pense que nous, c'est une évidence, un peu la mission d'entreprise. Mais justement, ça va être le moment de le rappeler, de le remettre en avant. Surtout qu'on a la chance d'avoir une très belle mission, d'aider les éleveurs et les agriculteurs à mieux se rémunérer. Donc, ça sera l'occasion de reparler, en effet, de ça.
Et puis, en plus, tu sais, les gens adorent les backstage. Mm-hmm. Ils adorent ça. Je suis persuadée d'une chose, c'est que les entrepreneurs aujourd'hui et les éleveurs et les gens, en fait, de la vie réelle sont les influenceurs de demain. Je pense que le grand public, si je puis dire, en a marre qu'il y ait uniquement des personnes qui sont des personnes, on va dire, des images. Ils ont envie qu'il se passe des choses réelles derrière. Et donc même les influenceurs sont en train eux-mêmes de plus en plus de créer des choses de leurs mains et pas, entre guillemets, juste de se prendre en photo. Je pense que vous avez tout intérêt, si tu veux, à capitaliser justement sur le côté backstage et à montrer comment vous avez fait le rebranding. Vous pouvez parler de l'équipe, vous pouvez parler des éleveurs qui ont contribué. Enfin, ça peut être l'occasion, en fait, d'avoir énormément d'éléments de communication qui vont aussi créer, si tu veux, une adhésion au projet, une fois de plus, et vous permettre tout simplement de non seulement fédérer les anciens clients, mais aussi d'avoir des choses intéressantes à raconter à des personnes qui, aujourd'hui, ne vous connaissent pas forcément aussi bien qu'ils le devraient. Donc je peux pas insister assez, si tu veux, sur le fait qu'un rebranding, en fait, c'est pas une fin en soi, c'est aussi un outil de communication, pour que je sois très clair. Le rebranding en tant que tel, si tu veux. Et donc, il faut que toi, si jamais tu travailles au marketing pour cette entreprise, bah, en fait, tu réfléchisses à quels sont les contenus que tu peux tirer sur ce rebranding. Ça peut même être, tu vois, d'expliquer à la presse. En presse, tu vois, tu pourrais tout à fait dire bah, pourquoi, ça peut être l'occasion de communiquer via un communiqué de presse. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de faire ce rebranding et de l'expliquer. Donc bref, tout ça pour dire que vraiment ne sous-estime pas la puissance de cet outil de communication.
Oui, non mais tout à fait raison. Et justement, moi je me pose un peu la question en termes de chronologie, est-ce qu'il faut mieux regrouper ça sur un laps de temps assez court ou en fait prévoir un rétro-planning assez long pour en bénéficier de ce rebranding sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois?
Bah après, moi j'ai une théorie marketing qui est que le marketing fonctionne à force de répétition, qu'il vaut beaucoup mieux concentrer les efforts, et ça c'est quelque chose que je parle beaucoup dans mes formations, plutôt que de les saupoudrer. Typiquement, je suis pas hyper fan de l'idée, tu vois, de dilapider, on va dire, l'attention des gens sur des mois et des mois, parce qu'en fait, bah, on sait qu'elle est très très difficile à capter, cette attention des gens, et donc si t'arrives à interpeller de manière forte et frappante, forcément ça sera toujours beaucoup plus impactant. N'oublie pas que ce que tu cherches en termes de marketing, c'est très souvent justement à créer de l'impact, parce qu'on vit dans un univers qui est extrêmement concurrentiel et que bah, finalement, tu es en concurrence non pas seulement avec des personnes qui font la même chose que toi, mais avec n'importe qui essaie de capter l'attention de ton audience, notamment sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça fait beaucoup de monde. C'est tout autant moi avec mon podcast, si tu veux, que Netflix, que je sais pas, que quelqu'un qui vendrait de très beaux sacs, par exemple. Donc, autant te dire qu'il faut se battre pour capter l'attention. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais ça veut dire que quand tu as la chance d'avoir un message fort, dans ce cas, il faut le dire de manière extrêmement extrêmement impactante. Et donc, pour le dire simplement, moi, je te conseillerais effectivement de concentrer, tu vois, rien ne t'empêche de faire une semaine ou deux semaines dédiées au rebranding, où vous parlez quasiment que de ça, hein, et vous essayez de mettre le maximum de momentum justement sur ce sujet pour réussir vraiment à faire bouger les lignes et qu'il y ait quelque chose qui se passe. Parce que plus vous allez en parler, peut-être plus des personnes autour de vous vont en parler, et ça peut faire effet boule de neige. Notamment, tu vois, la presse peut s'en emparer, ce qui sera quand même, je pense, hyper bénéfique à l'entreprise. Et ensuite, rien ne t'empêche, bien sûr, de manière beaucoup plus délicate, tu vois, de saupoudrer de temps en temps, dans les semaines qui suivent, quelques retours à nouveau, tu vois, sur le sujet. Mais disons que j'ai pas tellement de doute que si tu veux que ça passe pas inaperçu, il faut en parler beaucoup. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'en parler tous les jours pendant deux semaines, mais disons qu'il faut pas mal matraquer pendant deux semaines. Une fois de plus, je sais pas quels sont vos supports de communication, mais pour te donner un exemple simple, si jamais par exemple vous communiquez sur Facebook ou sur Instagram, n'oublie pas que les personnes qui sont sur Facebook ou sur Instagram ne voient quasiment jamais en fait tes posts, même s'ils sont abonnés. N'oublie pas qu'Instagram en fait aujourd'hui est tellement concurrentiel, il y a tellement de personnes qui sont connectées en même temps, tellement de contenus qui sont publiés en même temps, que l'algorithme en fait va faire en sorte que même tes abonnés, t'en as peut-être quoi, 5%, 6% qui vont voir réellement tes contenus. Donc autant faire en sorte d'en publier beaucoup, parce que si t'en publies beaucoup, eh bien t'auras 6% le premier jour, 6% autre un autre jour, 6% autre un autre jour, et donc ça peut te permettre tout simplement d'avoir une couverture qui est supérieure. C'est malheureux d'une certaine manière. On aimerait bien tous que quand on fait une publication, la terre entière s'arrête et regarde. Mais en tant que marketeur, si tu veux, tu n'as pas le choix que de voir la réalité en face et de te dire que globalement, si je le dis de manière un peu crue, personne n'en a rien à foutre de ce que tu racontes. Et
ah,
du coup,
vache,
il faut, c'est vache, mais c'est la vérité. Et que du coup, il faut que tu fasses en sorte que ça soit extrêmement intéressant, extrêmement impactant et que tu le dises suffisamment souvent pour que les personnes concernées le voit, tout simplement.
Oui, non, en effet. Et alors, je ferais peut-être une différence entre les réseaux sociaux qui sont à destination de nos consommateurs et, tu vois, on utilise pas mal aussi LinkedIn. Je pense que ça doit sûrement pas être les mêmes messages à faire passer justement à nos entreprises partenaires et à des potentiels investisseurs, par exemple.
Ouais, alors LinkedIn aussi aujourd'hui hein, est un réseau social. Je sais pas exactement comment vous l'utilisez, mais tu vois par exemple pour ma part, les contenus que je fais sur LinkedIn sont quasiment les mêmes que ceux que je fais sur Instagram. Pour ma marque Gemio, je fais beaucoup moins de contenus sur LinkedIn que sur Instagram. Mais même hein, avec Gemio, il nous est arrivé régulièrement de faire des contenus joaillerie pure et les gens étaient très intéressés. Une fois de plus, c'est pas parce que une personne est DRH de L'Oréal qu'il ne sera pas potentiellement intéressé, en l'occurrence dans mon cas par un bijou et toi, peut-être que t'es personnes dans ton réseau qui peuvent être intéressées par votre storytelling. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément clients, parce que j'imagine que vous n'avez pas que des clients qui vous suivent sur LinkedIn. Il y a peut-être aussi juste un scope plus large. Mais dans ce cas, en fait, vous allez au moins parler de ce sujet, améliorer votre notoriété et puis surtout appuyer, si tu veux, sur ce storytelling qui m'a l'air d'être important à vos yeux. Donc, en termes de marque, de construction de marque, ça me paraît intéressant. Donc, évidemment, au niveau des wordings, des photos, tu n'es pas obligé de faire exactement la même chose que sur Instagram, qui a un côté peut-être un petit peu plus spontané. Mais même si tu donnes une dimension légèrement plus corporate, tu vois, à LinkedIn, tu peux tout à fait communiquer sur le rebranding. Au contraire, finalement, c'est une stratégie marketing, donc c'est éminemment corporate comme sujet.
Et peut-être, donc là, c'est la communication en externe, mais je trouve qu'il y a un vrai sujet aussi en interne, d'emmener ouais. avec nous les équipes et bah, nos agriculteurs, en l'occurrence, de les faire adhérer à cette nouvelle marque, parce qu'on leur dit, voilà, on va tout changer, même le nom, et c'est pas forcément évident pour des équipes de se projeter dans quelque chose de nouveau.
Bah, je suis complètement d'accord avec toi, hein. Tu touches du doigt un problème très important et qui, je dois dire, est souvent négligé. Donc, je te félicite, si je puis dire, d'y penser parce que c'est vrai, c'est pas si fréquent que ça. Et en fait, les gens s'étonnent parfois, si tu veux, que quand ils font un grand changement de rebranding, de plateforme de marque, ça arrive assez souvent, hein, dans la vie d'une entreprise, que les équipes qu'on a mis un peu devant le fait accompli, font la gueule. Mais c'est normal. Eux, si tu veux, ils ont l'impression, et c'est pas qu'une impression, de faire partie d'une équipe. Ils ont l'impression de contribuer et tout d'un coup on leur dit ah ben non, finalement c'est pas à droite, c'est à gauche, et du coup ça peut être un peu dur. En plus, comme je te le disais, bah, l'homme et la femme sont faites de telle sorte qu'il y a souvent un peu de résistance au changement. Donc c'est pour ça que ce qu'on disait précédemment, c'est l'explication, elle est clé. Moi, personnellement, je sais pas une fois de plus suffisamment comment vous êtes organisé, mais peut-être qu'un mail à toutes les personnes avec lesquelles vous collaborez, peut-être même un meeting. Je ne sais pas combien vous êtes. Alors après, j'imagine que si c'est des agriculteurs un peu partout en France, ce n'est pas évident de faire un meeting, mais ça pourrait être un Zoom. Mais en tout cas, montrer de la considération à ces personnes, leur expliquer, ne serait-ce qu'aussi pour qu'ils soient votre porte-parole. Parce que tu vois, ces personnes-là, si elles comprennent et qu'elles adhèrent au message, bah, vont beaucoup plus peut-être en parler autour d'eux. Enfin, n'oublie pas que ces personnes-là sont probablement aussi tes premiers prescripteurs. Il me paraît assez évident en fait qu'il faut passer du temps non seulement à les convaincre, mais à leur donner envie. Souvent, je trouve que en matière de RH interne, les gens confondent le fait de convaincre ou de faire adhérer d'une certaine manière à un projet, c'est-à-dire que les gens te mettent pas des bâtons dans les roues, donc on va dire que le négatif devienne au moins neutre, mais c'est autre chose d'être non seulement pas neutre, mais d'être carrément prescripteur et d'être à fond. Et si t'arrives à donner envie aux personnes qui travaillent avec toi de participer à ce changement, mais là, sincèrement, c'est gagné, parce que ça veut dire que ces personnes vont elles-mêmes, si tu veux, être les premiers ambassadeurs de ce que vous faites. Et ça, en fait, c'est une puissance évidemment très importante, parce que ça va juste décupler tes efforts à toi sur X nombre de personnes. Donc vous avez tout intérêt à passer du temps à faire ça, peut-être avec le CEO de la boîte si c'est pas toi, pour justement montrer en fait qu'il y a une vraie considération pour les personnes qui font partie de l'équipe.
Je suis bien d'accord, et on a essayé justement d'inclure un peu donc des agriculteurs et aussi voilà toutes les équipes opérations, enfin toutes les équipes en fait qui vont subir mine de rien ce changement de marque. Ça les impacte énormément, et donc c'est clair que si on veut avoir des équipes hyper motivées à nos côtés, bah il faut qu'elles soient complètement convaincues aussi par ce changement de marque.
Et d'ailleurs, une petite astuce peut-être pour ce travail de conviction qui est jamais facile, une fois de plus, hein, quand t'es face à des personnes qui sont un peu résistantes au changement, c'est de leur demander leur avis, en fait. C'est pas juste de leur dire vous aimez pas, parce qu'en fait, ça, le réflexe de base, c'est, je te dis, la résistance au changement, donc c'est plutôt de dire que c'était mieux avant. Mais par contre, si tu demandes des avis spécifiques sur certains points de détail, par exemple, et là, qu'est-ce que vous pensez de la couleur? On a énormément hésité entre le vert comme ci et le vert comme ça. Tu vas te rendre compte qu'en fait, tout d'un coup, tu vas commencer à avoir des remarques qui sont beaucoup plus constructive, et que les gens en fait se projettent justement dans le projet et arrêtent, tu vois, d'être un peu les quatre fers devant, en train de dire non mais en tout cas c'était mieux avant. Donc c'est peut-être une petite astuce que je peux te donner, c'est pas si c'est toi qui vas le faire une fois de plus ou si c'est quelqu'un d'autre dans l'équipe, mais de manière générale, quand tu essayes de convaincre, plutôt que de demander aux gens est-ce que vous aimez, ou en fait c'est tellement large comme question que les gens très souvent ont tendance à dire oui, mais il y a plein de mais, parce qu'il y a toujours des détails, si tu veux, qu'ils auraient imaginé différemment. Et du coup, en fait, on en sort, si tu veux, de ces réunions-là avec finalement un sentiment un peu décevant où la personne finalement a critiqué, tu vois, et a trouvé à redire à 150 000 choses. Bah, plutôt en fait que de partir déjà là-dessus, où sincèrement c'est à peu près toujours perdant comme stratégie, je te conseillerais plutôt de demander, voilà, d'impliquer en fait les gens sur la réflexion, en demandant en fait des avis, mais sur des points spécifiques de détail qui du coup impliquent les gens et les font réfléchir et pas juste réagir.
Oui, mais tu touches un vrai sujet, parce que surtout que sur le rebranding, voilà, c'est visuel, et donc chacun a un peu son avis aussi. Donc c'est difficile, quoi, d'inclure à la fois suffisamment de personnes pour que chacun se sente impliqué, et en même temps, à un moment donné, il faut prendre des décisions qui sont pas forcément 100% rationnelles, et donc on peut pas faire plaisir à tout le monde.
Ah bah c'est sûr, ça, tu pourras pas faire plaisir à tout le monde, mais en revanche, si tu demandes des avis et que c'est pas de la manipulation, mais c'est un peu de l'intelligence sociale aussi, bah tu sais que telle personne aime en fait beaucoup la couleur que vous avez choisie, et que toi ça t'arrange en fait du coup de lui demander ça, bah tu peux terminer par demander à cette personne-là, et du coup vous terminez, tu vois, sur une note positive où la personne te dit « trop cool, j'ai adoré », par exemple. Donc, il y a plein de petites stratégies comme ça, mais globalement, même si oui, les gens vont peut-être avoir à redire sur la couleur, du coup, peut-être ne pose pas la question sur la couleur, tu vois, tu peux poser la question sur des choses qui sont un petit peu plus évidentes et sur lesquelles vous êtes vraiment sûr de vous. Je suis d'accord que sur des jugements subjectifs, c'est pas forcément le plus pertinent, mais tu peux tout à fait, tu vois, choisir un thème du style, tu vois, la nouvelle manière de raconter votre histoire et donc votre nouveau storytelling, ça probablement, je peux imaginer que les gens vont être plutôt en phase. Donc là, tu peux certainement trouver matière à dialoguer de manière constructive, plus effectivement que sur une couleur où là, bon, t'as des gens qui vont te dire plus bleu, plus vert, plus rouge, c'est jamais très simple.
Exactement. Mais écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils.
Eh bien, écoute, merci à toi. Je te souhaite bonne chance, du coup, pour cette ligne droite. Alors, juste redis-moi une dernière fois, c'était quoi, c'est quoi l'ancien nom et le nouveau nom?
Alors, avant, on s'appelait Né d'une seule ferme. Donc, on est une marque de yaourt fabriqué à la ferme. Et à partir d'octobre, on va s'appeler J'achète Fermier.
Bah, en tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que c'est déjà au niveau du nom de la marque, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus court et facile à retenir. Donc, rien que ça, un niveau purement sonore, on va dire, et très, très méta marketing, tu vois, de la fille qui n'y connaît rien, qui n'a pas vu votre produit et tout. Déjà, je préfère parce que moi, je me rappelle de J'achète Fermier, alors que l'autre, j'ai déjà oublié ce que tu m'as dit, tu vois.
Merci, Pauline. Tu me rassures beaucoup.
Écoute, avec plaisir. Mais tu sais, parfois, les choses les plus simples, c'est celles qui marchent le mieux. Et en l'occurrence, juste un nom dont on se rappelle bien, qui veut dire quelque chose, c'est déjà très bien.
C'est vrai. Bah, écoute, merci beaucoup.
Bah merci à toi, Éléonore, et puis à bientôt.
À bientôt, Pauline.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi, peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse. Donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.